Tout de suite, les informations de France Culture suivies de la grande table présentée cet été par Maëlys Bessery. Bonjour Adrien Topola.
Adrien Toffolé, merci. Toffolé, après des premiers pas en homme tout terrain en déplacement de Dijon à la Guyane, Jean Castex enfile tout à l'heure son costume d'orateur. Le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, la feuille de route du gouvernement pour les prochains mois. Jean Castex doit surtout convaincre le Parlement, y compris sa majorité précision dans un instant. Dans ce journal également, l'affaire Wissam, devant la justice ce matin. Wissam, cet homme tombé dans le coma et décédé après avoir été interpellé par la police, c'était en 2011. La cour d'appel de Rion rejette la demande de la famille pour obtenir un complément d'information, mais l'information judiciaire n'est pas close. À l'étranger, les sanctions économiques de Washington contre la Chine et sa loi de sécurité nationale pour Hong Kong. Et puis la population mondiale qui grandit, mais pas autant qu'attendu selon une étude publiée dans The Lancet. C'est un exercice difficile pour tout chef de gouvernement, d'autant plus quand on passe le lendemain tout juste du président de la République. C'est donc le jour J pour Jean Castex. Il prononcera à 15h sa déclaration de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale. La feuille de route du gouvernement, comme on l'appelle pour les deux dernières années du quinquennat. Comment, avec quelles armes affronter les crises sanitaires, économiques et sociales? Du précis et du concret, promet le Premier ministre à nos confrères du Figaro. Ça passera notamment par un plan de relance industrielle et écologique, une attention particulière à l'emploi pour les jeunes, disait hier Emmanuel Macron. Pour Jean Castex, en revanche, l'enjeu est double. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour Adrien.
Ce grand oral doit non seulement convaincre les Français qu'il est l'homme de la situation, mais aussi les parlementaires de sa propre majorité.
Et c'est un grand oral qui doit permettre au Premier ministre de se révéler. Hier, le chef de l'État a tracé le chemin. Et c'est à Jean Castex qu'il a confié la mission d'expliquer la feuille de route et d'en détailler les mesures concernant l'économie, l'emploi, la santé, l'écologie, le fameux plan de 100 milliards d'euros de relance massif. À lui de préciser sa méthode sur les retraites, dossier explosif dont Emmanuel Macron dit ne pas pouvoir faire l'économie d'une réforme. Cette déclaration de politique générale est faite pour convaincre les Français, mais surtout les députés de la majorité, qui ont été surpris par la nomination de ce grand serviteur de l'État à Matignon, qui plus est, un homme de droite venu des Républicains. Et c'est bien là tout l'enjeu de ce discours: rassuré, s'imposer comme chef de la majorité, stopper l'hémorragie, car depuis des mois maintenant, une certaine agitation gagne les rangs des marcheurs. Souvenez-vous qu'en juillet 2017, lors de son premier discours de politique générale, Édouard Philippe s'était conforté par 370 votes, mais c'était il y a longtemps, car depuis, 34 députés LREM ont quitté le groupe, lui faisant perdre la majorité absolue à l'Assemblée. Pour passer ce cap cet après-midi, eh bien Jean Castex pourra compter sur ses alliés d'Agir et du Modem. Reste que cette déclaration de politique générale prend les allures d'un baptême du feu pour celui qui n'est jamais monté à la tribune de l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été député ni ministre, qui a été chahuté la semaine dernière lors de la séance de questions au gouvernement. Sa force, c'est son ancrage dans les territoires. Il le dit, il le répète, son credo, l'autorité de l'État. Et c'est sur ce positionnement que ce gaulliste social, homme d'écoute et de dialogue, va tout à l'heure tenter d'imprimer sa marque pour convaincre bien au-delà des rangs de l'Assemblée nationale.
Merci Pierre Neveu. À propos de ce plan de relance de 100 milliards d'euros au total dont vous avez parlé, annoncé hier par le Président, il comprendra donc un dispositif d'exonération des charges pour les jeunes pour favoriser l'embauche de salariés peu qualifiés. Ça concerne les moins de 25 ans, payés moins d'1,6 SMIC. Le MEDEF aimerait aller au-delà de ce plafond, car il y a beaucoup de jeunes diplômés qui risquent de se casser le nez sur le marché de l'emploi, a expliqué ce matin sur RTL le président délégué du MEDEF, Patrick Martin. On entre aujourd'hui dans une période très attendue de tout le secteur commerçant après les mois difficiles de la crise du coronavirus. Avec 3 semaines de retard sur le calendrier, les soldes débutent aujourd'hui jusqu'au 11 août. Les commerçants déjà en grande difficulté financière espèrent réduire leurs pertes, sauf qu'il ne faut pas s'attendre à une ruée dans les magasins, selon Nathalie Damery, présidente de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, qui publie une étude qui révèle que seulement 36% de Français se disent prêts à faire des achats pendant les soldes cette année.
Et le résultat d'une érosion qui date des années précédentes, hein, le fait que les soldes entrent en concurrence avec d'autres agendas de consommation à prix caché, des soldes privés, et puis parce que cette année marque un coup d'arrêt sur les envies, le plaisir, le simple plaisir de consommer, de flâner dans les magasins, d'aller chercher la bonne affaire. Les gens ont peur d'aller dans les magasins. Et donc, sur Internet, ils vont faire des achats plutôt raisonnables, des achats qui vont être peut-être certainement plus maîtrisés, plus pensés que les achats de simple plaisir ou spontanés que l'on pourrait faire dans les magasins. Il y a une moindre appétence, en réalité. Parce que effectivement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu pendant l'épisode du confinement, qui ont subi des pertes de revenus, notamment toutes les personnes qui ont une part de leur rémunération en prime, qui ne les ont pas touchées. Vous avez des personnes qui ont perdu leur CDD, vous avez des personnes dont les entreprises sont menacées et qui se disent que c'est le moment de se faire plaisir n'est pas encore venu.
La présidente de l'Obsoco, Nathalie Damery, jointe par Hakim Kasmi. Et en ce premier jour de solde, les salariés d'André, le réseau de magasins de chaussures en redressement judiciaire, les salariés d'André sont à nouveau en grève aujourd'hui pour dénoncer les dégradations de leurs conditions de travail, mais surtout le plan social à venir. C'est dans moins de 10 jours qu'on saura si François Feijou, ancien PDG de l'enseigne, reprend une partie des magasins. 47 boutiques et près de 180 salariés sauvegardés sur 412. Un nouvel épisode judiciaire dans l'affaire Wissam. Cet homme tombé dans le coma est décédé après avoir été interpellé par la police. C'était à la Saint-Sylvestre 2011 à Clermont-Ferrand. Sa famille, qui estime que sa mort est la conséquence de violence, a demandé un complément d'information devant la cour d'appel de Rion. Bonjour Olivier Vogel.
Bonjour.
Demande rejetée par la justice ce matin, mais le combat continue car l'information judiciaire n'est pas close.
Oui, c'est une déception pour la famille qui réclame depuis des années l'audition de 3 témoins, des jeunes qui étaient présents au commissariat de Clermont la nuit de la Saint-Sylvestre en 2011 et qui ont raconté à la famille que Wissam El Yamni aurait été victime de violences de la part des policiers qui l'avaient placé en garde à vue. Mais ce matin, la cour d'appel de Rion a décidé qu'il ne serait pas auditionné. Ça nous semble injuste, ils ont vu des choses, a regretté Maître Bory, l'avocat de la famille, qui ne désespère pas pour autant de réitérer cette demande si des éléments nouveaux apparaissent, car la cour a demandé ce matin que les policiers soient une nouvelle fois auditionnés en tant que témoins assistés et en présence des parties civiles. Concrètement, ça signifie la réouverture de l'information judiciaire qui était sur le point de se clôturer et que toutes les demandes d'actes supplémentaires seront à nouveau recevables. Après des années de bataille contre des expertises médicales qui avaient conclu que le décès du chauffeur routier de 30 ans était consécutif à une absorption massive d'alcool et de drogue, la famille de Wissam El Yamni et leurs avocats sont confortés dans leur combat par un dernier rapport d'expertise qui précise que l'intervention d'un tiers a été déterminante dans le décès après 9 jours de coma.
Olivier Vogel, merci. C'était attendu, Donald Trump accentue la pression sur la Chine en représailles de la loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong. Le président américain vient de promulguer une loi prévoyant une nouvelle volée de sanctions économiques contre Pékin. Son décret met fin au traitement économique préférentiel accordé à Hong Kong. Les explications de notre correspondante sur place, Florence de Changy.
La loi américaine, baptisée « Loi sur l'autonomie de Hong Kong », vise d'abord les responsables chinois, mais éventuellement aussi hongkongais, qui auraient contribué à éroder l'autonomie du territoire. Ils risquent des sanctions, mais on ne sait pas encore de qui il s'agit ni exactement quelles sont les sanctions prévues. Un certain nombre d'officiels chinois et hongkongais ont évidemment des liens avec les États-Unis. Certains y possèdent des biens immobiliers, des comptes en banque et parfois des enfants dans les meilleures universités. Leurs savoirs vont-ils être gelés ou leurs visas révoqués? Regina Hip, une figure connue du camp pro-Pékin à Hong Kong, a qualifié les mesures américaines de barbares et excessives en ajoutant que de toute façon, personne ne souhaitait aller aux États-Unis en ce moment, au vu de la situation sanitaire et du racisme qui y prévaut. La loi américaine interdit également toute exportation de technologies sensibles vers Hong Kong, par exemple les drones. Il n'a fallu que quelques heures à Pékin pour rétorquer en indiquant que la Chine imposait à son tour, en représailles, des sanctions contre des entités et des individus américains ayant des intérêts en Chine.
Et dans le même temps, le New York Times fait le choix de déplacer à Hong Kong, de Hong Kong à Séoul, en Corée du Sud, son service numérique, conséquence directe de la promulgation de la loi de sécurité nationale, avec le grand quotidien américain qui s'inquiète des conséquences de la législation sur son activité. Les juges européens donnent finalement raison à Apple contre la Commission européenne. Cette dernière sommet, le géant américain de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus par Bruxelles. Apple avait rapatrié en Irlande entre 2003 et 2014 l'ensemble des revenus engrangés en Europe pour bénéficier d'un traitement fiscal favorable. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Même si un appel est possible, c'est un énorme revers pour la Commission.
Oui, alors difficile de résumer cet arrêt long de 100 pages et complexe aussi bien sur le plan juridique que technique. Les juges devaient apprécier si, comme le disait la Commission européenne, l'Irlande avait accordé des avantages fiscaux sélectifs à deux filiales d'Apple installées sur son sol, et ils devaient aussi apprécier le calcul de ces avantages pour savoir s'ils s'élevaient effectivement à 13 milliards d'euros. Or, ce qui ressort de leur analyse, c'est que la Commission européenne n'a pas su apporter les preuves de son raisonnement. Elle soutenait notamment que l'une des succursales irlandaises a assumer le plus gros de l'activité d'Apple en dehors du continent américain et qu'en conséquence, elle aurait dû avoir plus de résultats et donc un impôt plus élevé. Mais la Commission n'a pas apporté, je cite l'arrêt, d'éléments de preuve sur l'exercice et la prise en charge concrète de ses fonctions. Absence de preuve, considération erronée, non raisonnable même, argument non étayé. Les termes utilisés par les magistrats de la Cour de justice de l'Union européenne réduisent quasi à néant toute la démonstration de la Commission européenne sur ce dossier. Et partant de là, donc, l'obligation pour Apple de rembourser à l'Irlande des avantages fiscaux qui finalement, donc, selon l'arrêt rendu ce matin, n'en sont pas faute de preuves. C'est un revers énorme pour la Commission et en particulier Margaret Vestager qui a lancé toutes ses procédures contre les multinationales et les pays de l'UE qui les traitent favorablement sur le plan fiscal. Et bien sûr, Apple s'est réjoui de la décision des juges européens et l'Irlande s'en est félicitée.
Marie Viennot pour les précisions, merci. Les mesures de sécurité sanitaire se resserrent face à l'épidémie de Covid-19 en Europe. La région de Lisbonne prolonge de 2 semaines le reconfinement partiel engagé depuis le début du mois et chez le voisin espagnol en Catalogne dans la région de Lleida. La justice doit donner son accord à un reconfinement de 160 000 habitants en raison d'un foyer épidémique virulent. Pendant ce temps, dans les Balkans où l'épidémie reprend du terrain, la Grèce s'organise pour accueillir les touristes cet été. Il faut dire qu'un cinquième du PIB du pays dépend du tourisme. Alors depuis plusieurs semaines, Athènes donne son feu vert progressivement à la reprise des liaisons internationales. Aujourd'hui, c'est au tour du Royaume-Uni. L'année dernière, les Britanniques étaient plus de 3,5 millions à venir profiter des plages et des lieux historiques. Cet été, ils seront accueillis sans test ni quarantaine, ce qui n'est pas sans inquiéter et diviser la population grecque, les Iliens qui dépendent d'eux économiquement et les habitants du continent. Reportage à Athènes, signé Angélique Cournis.
Kate Smith, ambassadrice du Royaume-Uni, se réjouit sur l'antenne de plusieurs radios nationales de l'ouverture des frontières grecques aux visiteurs britanniques. Cependant, dans les rues touristiques de la capitale, les avis sont partagés. Dimitri, vendeur de souvenirs à Monasteraki, au quartier touristique d'Athènes, est résolument optimiste.
Tout le monde est le bienvenu. On a passé 70 jours en confinement et rien n'a changé. Alors on est prêts. Qu'ils viennent tous, ils seront bien reçus.
Un peu plus loin, Andonis, guide touristique, lui, a des réserves.
Je doute que l'on puisse contrôler tous les gens qui vont venir, mais en même temps, il est inévitable que le tourisme, qui est l'un des piliers de notre économie, redémarre et soit rentable.
Vassilis, hôtelier à Plaka, au pied de l'Acropole, fait partie de ceux qui ont peur.
On a peur pour nos enfants et surtout pour nos parents qui sont âgés. Et même avec les clients, on a l'habitude de les saluer, de leur parler de près. On se demande comment on va rentrer à la maison, se changer, prendre un bain. Oui, on a un peu peur.
Dès aujourd'hui, les festivals en plein air dans tout le pays vont reprendre sur fond de hausse des cas de contamination. Pour la première fois, un cas s'est même déclaré sur l'île de Paros dans les Cyclades. De fait, la distanciation sociale en vacances est extrêmement difficile à respecter et les autorités grecques commencent à s'inquiéter.
En France, en revanche, on déconfine un peu plus malgré le spectre d'une deuxième vague. Réouverture des salles de lecture de la Bibliothèque nationale de France à Paris, réouverture du 3e étage de la Tour Eiffel et réouverture aujourd'hui également, mais progressive, au public de Disneyland Paris avec tous les visiteurs qui doivent porter un masque, bien entendu. Nous sommes actuellement 7 700 millions d'humains à vivre sur Terre, chiffre en constante augmentation et qu'aucune crise, même celle de la Covid, ne semble pouvoir arrêter. D'un côté, tant mieux pour l'humanité. Les dernières projections de l'ONU tablent sur une population mondiale composée de 9 700 millions d'habitants en 2050, mais une étude américaine publiée aujourd'hui dans The Lancet vient pondérer pondérer un petit peu ce chiffre. La population mondiale va décliner dès la deuxième moitié du siècle pour atteindre 9,7 milliards d'habitants en 7,7 milliards d'habitants en 2050. Le temps cet après-midi sera mitigé, grand soleil sur l'arc méditerranéen, des nuages gris sur la pointe bretonne et le long des Pyrénées, des averses en Auvergne-Rhône-Alpes, en Franche-Comté, sur une bonne moitié des Hauts-de-France. Partout ailleurs, le ciel sera en alternance ensoleillé et voilé. Côté température, il fera entre 17 et 30 degrés, 21 à Paris, 18 à Brest, 20 à Lille et Bordeaux, 25 à Lyon et 29 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Merci à lui.